Hier, tout planté, tout arrosé ce matin.
Et tout arrosé. Et t'as fait quoi maintenant?
Et j'ai remis là-bas dessus pour ça.
T'as remis, hein?
Ça chauffe, oui, j'ai remis. Hier, je sais d'or. Hier soir, tac, j'ai remis. Ce matin, tout arrosé dedans. Propre.
Ouais, mais pas trop. Là, mais non, arrose plus tant que ça sort pas, hein. Et ça faut arroser quand ça sort.
Et cet après-midi, je mets du fumier dans le jardin. Et demain après-midi, Moon, il monte avec le motoculteur. Une heure de temps.
Il vient,
une heure
de plus. Il vient, il dit.
Une heure. Et il mange avec moi demain midi.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Des jardiniers heureux, voilà, comme j'espère vous l'êtes en écoutant cette émission, en écoutant France Inter. Bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, avec Aveline Carmois et Jean-Philippe Jeanne à la technique aujourd'hui, et assisté de Sophie Briat, c'est Christophe Imbert que nous retrouvons et qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, car dans cette émission, vous le savez, on a un faible pour les abeilles. Mais on n'est pas les seuls, car depuis peu, la firme Monsanto s'intéresse elle aussi à la classe ouvrière, catégorie hyménoptère. Oui, le même Monsanto pour qui les herbicides sont un fluide vital et les OGM un but dans l'existence. C'est en tout cas ce que nous apprend cette semaine Reporter, le magazine de l'écologie sur Internet. Et pourquoi cet intérêt soudain? Serait-ce pour des raisons bassement mercantiles? Parce qu'un tiers de l'alimentation humaine repose sur ce petit boulot d'anonyme ailé? Un service entre parenthèses totalement gratuit qui est estimé à la coquette somme de 153 milliards d'euros par an. Or, les effectifs de cette petite entreprise planétaire périclitent. Alors on a un peu enquêté avec mon ami Albert Houck. Chaque année, évidemment, on le sait, 30% des ruches disparaissent sous l'action de causes multiples. C'est à croire que la SARL miel toute fleur, eh bien, on a tendance, comme partout, à compresser les effectifs dans cette SARL. Parmi ces causes possibles, une famille de pesticides, les néonicotinoïdes, est pointée du doigt. Ces produits qui sont apparus sur le marché dans les années 90 attaquent le système nerveux central des insectes. Chez les abeilles, cela se traduit par des butineuses désorientées, incapables de retrouver leur ruche. Or, appliqué aux centaines d'abeilles d'une même ruche, même des milliers, cette mauvaise farce peut conduire à la disparition de l'essaim. Cerise sur le gâteau au miel, les néonicotinoïdes qui fréquemment enrobent les semences de Monsanto affaibliraient aussi les défenses immunitaires des abeilles, les rendant particulièrement vulnérables aux parasites, le fameux acarien, le varroa en tête. Alors de là à penser que cette double... À penser que cette double peine explique le syndrome d'effondrement des ruches, il n'y a peut-être bien que la taille d'une alvéole. Étonné, c'est curieux. Les abeilles ont commencé à tomber comme des mouches précisément depuis les années 90. Eh oui, c'est ça le hasard. Heureusement, tout va s'arranger grâce à Monsanto parce qu'en écoutant que sa philanthropie et son amour légendaire de la nature, la multinationale va remettre tout ça d'équerre. N'a-t-elle pas ainsi organisé l'année dernière un sommet sur la santé des abeilles? N'a-t-elle pas également racheté une entreprise spécialisée dans la recherche sur la santé de ces indispensables bestioles? N'a-t-elle pas aussi financé un programme visant à faire semer par les agriculteurs des plantes mellifères dont sont friandes les abeilles? Alors, si avec tous ces efforts, Monsanto n'est pas canonisé, c'est à désespérer. D'ailleurs, cette firme s'est rapprochée de la plus importante entreprise productrice de reines d'abeilles aux États-Unis et voilà qui offre une belle ouverture pour qui s'intéresse à la sélection génétique. Alors, il est vrai qu'avec le syndrome d'effondrement des colonies, il faut renouveler les stocks. Je veux dire que même les apiculteurs français sont obligés de se fournir ailleurs qu'en France parce qu'on ne trouve pas assez donc, de reines en France. Et comme la demande dépasse largement la production, les bonnes affaires ne devraient pas tarder. Merci qui? Eh bien merci les néonicotinoïdes. Et oui, tout bien considéré, la destruction n'est jamais que le préalable à la reconstruction. Ouais, vive la guerre! L'idéal serait naturellement de parvenir à créer des abeilles transgéniques qui résisteraient aux bons produits chimiques disponibles dans la boutique Monsanto. Un kit complet serait leur proposé. Hein, vous entendez bien? D'un côté, vous avez les semences enrobées d'insecticides et de l'autre, les abeilles aux gènes bricolés pour assurer la pollinisation. Alors, bon, on n'en est pas là, mais quand même, les enfants, vous nous écoutez, c'est l'avenir. Ça, je pense que c'est. Faites péter les startups, là, bricoler l'abeille, allez-y, c'est de l'avenir. Bref, dans l'agro-business comme partout, il faut savoir investir au bon moment sur un marché porteur, quitte à réunir sous une même casquette le pompier et le pyromane. « Voilà, on s'est dit avec Albert Roux que cette petite fable vous plairait. En tout cas, elle est tout à fait d'actualité. On va revenir sur les abeilles dans quelques instants. Mais auparavant, donc quand même le sommaire. Je vous le disais, c'est le combat des terres agricoles un peu partout en France. Et face à l'urbanisation sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, eh bien, on va prendre un cas d'école. Comment garder les terres agricoles parmi les meilleures de France face à ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, une OIN. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, d'autant que les transports n'ont pas du tout été pensés vraiment avant. Alors, on va poursuivre dans le monde des abeilles.
Dès les années 90, les apiculteurs signalaient d'énormes pertes en Europe, dans les Amériques et en Asie. Partout dans le monde industrialisé, les abeilles sont en train de mourir. Des scientifiques de toutes les disciplines se sont mobilisés pour analyser le problème. En 4 ans, qu'ont-ils appris ? La science peut-elle apporter une explication ou un remède ?
Voilà, c'est donc notre actualité. Epilobi. Epilobi, c'est le nom d'un programme, d'une étude. Et on va se tourner vers vous. Bonjour Gérald Arnold.
Bonjour Denis Chessou.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes apidologue, autrement dit un biologiste de l'abeille. Et alors, vous allez nous parler de cette étude qui a été menée sur 17 pays, qui a été commandée par la Commission européenne, avec quand même un très joli budget de 3 millions d'euros. Il s'agissait de visiter et de suivre 3 300 ruches, je le disais, dans 17 pays, 37 000 colonies d'abeilles. Et on suivait donc évidemment les maladies et le comportement de ces abeilles sur une année. Alors qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien qu'en Europe, le déclin des abeilles frappe lourdement les pays du Nord. C'est ce que nous disait récemment dans Le Monde Stéphane Foucard. Si je suis une abeille, j'ai intérêt à vivre plutôt dans quel pays alors ?
Ben, en Italie ou en Grèce. Bon, une étude sur un an, il ne faut pas non plus généraliser. Hein. Je pense qu'une étude comme ça doit se faire sur plusieurs années, de manière à voir vraiment le cycle naturel des abeilles. Effectivement, il peut y avoir un accident climatique une année. Donc, si vous faites l'étude qu'une année, vous allez focaliser sur l'accident climatique. Je pense que l'étude doit continuer, mais évidemment avec un protocole amélioré, parce que ce protocole est assez critiquable, puisqu'il y a plusieurs sources de problèmes pour les abeilles. On sait qu'il y a les agents biologiques, d'une part, tels que les virus, les bactéries, l'acarien varroa, etc.
La loque américaine,
oui, on peut en rajouter un petit peu. Et les pesticides. Donc il y a deux grandes catégories de facteurs. Et malheureusement, cette étude commanditée par la Commission européenne, vous l'avez dit, ne considère que les agents biologiques.
Alors j'ai pu interroger Gilles Salva, qui est le directeur de la santé animale et du bien-être des animaux à l'ANSES. Alors dites-nous, effectivement, Gilles Salva, donc, puisque vous êtes aussi à la tête de cette étude, pourquoi en fait les pesticides ne sont pas représentés ?
C'est un sujet effectivement important, les pesticides, en tout cas en tant que cofacteur de sensibilisation des abeilles à différentes maladies au moins. Lorsqu'on a monté ce protocole européen en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne, on avait proposé effectivement que les pesticides rentrent dans les facteurs qu'on mesurait. Simplement, le niveau très hétérogène des différents pays qui participaient et de leur laboratoire en particulier, et le fait que pour certains pesticides, les méthodes ne soient pas consolidées pour toutes les matrices sur lesquelles on souhaitait rechercher les pesticides, a fait que l'Union européenne a abandonné l'idée, alors qu'elle y était plutôt favorable dans un premier temps, que pour la première année, on mette en place ce protocole, y compris sur les pesticides.
Mais en même temps, on peut s'interroger, parce qu'on peut se dire, après tout, c'est peut-être aussi un choix qui est politique et non pas forcément un choix qui est scientifique.
Très honnêtement, les bases du choix telles qu'elles ont été dictées par la Commission européenne sont vraiment des bases scientifiques sur le fait que tous les pays n'étant pas capables de le conduire, et on voulait pour cette première année que tous les pays participent sur le même protocole, simplement pour caler déjà les protocoles de mesure à la fois de la mortalité et puis de l'affaiblissement des colonies. La Commission n'a pas souhaité que pour cette première fois, les pesticides soient intégrés.
Mais vous-même, Gilles Salva, donc, qui est quand même un scientifique tout à fait reconnu, donc un chercheur aussi, vous imaginez bien que quand même, on sait que ce sont des causes multifactorielles, on est bien d'accord, qui tuent les abeilles aujourd'hui. Mais quand même, les pesticides, plus que comme bruit de fond, ou les néonicotinoïdes, qui en plus sont extrêmement rémanents, maintenant ne peuvent pas être complètement disculpés de l'affaire.
Tout à fait. Donc c'est vraiment un problème qu'on prend en compte, et on n'est pas les seuls en France. Hein. Il y a une grosse équipe de l'INRA qui travaille sur ce sujet également.
À Avignon, entre autres.
À Avignon, tout à fait. ces équipes et les nôtres ont pu montrer qu'un certain nombre de pesticides, notamment les néonicotinoïdes que vous citiez, sont responsables d'une sensibilisation des abeilles à certaines maladies, sont responsables de temps de retour à la ruche beaucoup plus long, donc voilà, des abeilles qui peuvent se perdre, etc. Donc on voit bien que c'est un facteur essentiel. Ça n'est pas le seul, hein, il y a d'autres facteurs. Et notamment dans l'enquête Epilobie, on a quand même été regarder les autres facteurs, les facteurs climatiques, les facteurs liés à l'élevage, les facteurs liés au nourrissement des abeilles, etc., qui leur permettent de plus ou moins bien passer l'hiver et de maîtriser la mortalité en saison ou pas.
Alors Gérard Arnold, peut-être réaction, je le rappelle, vous êtes biologiste de l'abeille, vous travaillez donc au CNRS depuis de très nombreuses années, c'est vrai qu'on est quand même très surpris que les pesticides n'aient pas été pris en compte.
Oui, alors je vais revenir sur deux points peut-être de ce qui vient d'être dit. D'abord, l'aspect plurifactoriel. Alors, on est tous d'accord, au niveau international, il y a plusieurs facteurs.
Mais
il y a un abus de cette terminologie parce qu'elle tente à faire croire que lorsqu'une ruche a des problèmes ou meurt, ça doit être absolument plurifactoriel. Non. Il peut y avoir une seule cause, ça peut être l'acarien varroa, si l'apiculteur n'a pas traité, ou une intoxication par des pesticides. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'avoir les deux facteurs. Dans un grand nombre de cas, c'est vrai qu'il y a des interactions entre ces facteurs, ça peut être montré, et donc une colonie qui est affaiblie par un pesticide, par exemple, va être plus sensible à Nosema ou Varroa.
Mais alors ça profite à qui de diluer les responsabilités ?
Ah ben écoutez, je n'ai pas la réponse immédiate. En tout cas, ce concept a été beaucoup utilisé pour diluer effectivement, pour noyer certains facteurs plutôt que d'autres. Je vous laisse le soin de trouver lesquels, mais en tout cas, il y a des cas où il n'y a qu'un facteur. Voilà. Donc oui, globalement, multifactoriel dans les différents pays au niveau international, mais c'est au cas par cas. Il y a des colonies qui peuvent ne mourir que d'une seule cause. Ça, c'est le premier point. Et sur le raisonnement par rapport aux pesticides, j'ai quand même du mal un peu à croire que la Commission européenne ait pu avoir ce raisonnement parce qu'il aurait suffi de faire des prélèvements dans les mêmes ruches que les ruches qui ont été utilisées pour les maladies, et puis de confier certains échantillons, pas forcément tous parce que c'est très cher, à quelques labos de référence en Europe. Il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire d'analyse chimique pointu en Lituanie ou dans d'autres pays comme ça. Il y a des laboratoires en France et ailleurs. Donc on aurait très bien pu faire ces analyses de pesticides, pas forcément dans les pays où les prélèvements ont été faits.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la priorité était de nourrir les populations. Au nom de l'efficacité et de la productivité, les produits chimiques et les machines furent employés dans une guerre contre la nature. En France, la politique du gouvernement transforma le paysage pour servir les besoins de l'agriculture moderne. Les haies furent arrachées, les champs aplanis et agrandis. Des techniciens remplacèrent les fermiers et les apiculteurs furent confrontés à de nouveaux défis alors que les insectes étaient chassés de la moindre culture.
Ça a commencé avec le Metasystemox, c'était aux alentours des années 1950. 1950 ou 1960, c'est un produit qui était d'une violence extrême.
Puis on va juste rappeler quand même le poids de la chimie en Europe, qui est une des plus importantes au monde. Maintenant, évidemment, on est un peu dépassé par la chimie, mais c'est quand même des plus importantes. Et on peut imaginer, vu le nombre d'emplois et le chiffre d'affaires que ça représente, qu'il s'agit peut-être de pas non plus froisser tout à fait tout le monde. Donc ça, vous n'avez pas la réponse, mais ça, on peut quand même y penser un tout petit peu. Alors, Gérard Arnold, c'est un peu surprenant aussi de voir dans cette étude que la France a peut-être la mortalité la plus élevée d'Europe au cours de ce qu'on appelle la saison apicole, c'est-à-dire au printemps, au réveil des abeilles, jusqu'au mois de juillet, où en général, vous avez une visite effectivement de ruchers.
Effectivement, ça a été assez surprenant. Alors, ce qui était surprenant aussi, c'est les réactions de la Commission européenne qui se réjouissait presque que c'était moins pire qu'on ne pensait.
Oui.
En fait, c'est quand même très, très important pour un grand nombre de pays. On citait la France, la Belgique, les Royaumes-Unis, etc. Et donc, non seulement la mortalité hivernale est supérieure au taux de 5-10%, qui est une mortalité, on va
dire, qui est acceptée,
mais la mortalité pendant la saison apicole est très élevée en France, de 13-14%. Et je pense que l'étude, en fait, n'a duré que 9 mois, si j'ai bien calculé.
Et donc, on est quand même le pays qui bouffe le plus de pesticides. Pas, c'est un hasard.
Alors,
mais c'est...
moi, je ne fais pas la relation directe, mais ça aurait été bien de le savoir, justement.
Voilà.
Peut-être qu'on se trompe en disant ça, qu'elles ont eu autre chose. Mais à partir du moment où on ne le regarde pas, c'est évidemment très inquiétant, très embêtant, quoi.
Gérard Arnold, est-ce que nous avons un problème de maîtrise sanitaire en France concernant les abeilles aujourd'hui ?
Alors, bon, les apiculteurs, je crois qu'il ne faut pas trop les blâmer parce qu'ils ont affaire quand même à beaucoup de problèmes depuis 15-20 ans.
Hein. On rappelle juste qu'il y a 2500 professionnels en apiculture et puis environ 70 000 apiculteurs, on va dire amateurs, éclairés, tout ce que l'on veut avec les différents stades. Donc c'est très très éclaté comme activité.
Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut probablement une technicité maintenant beaucoup plus grande pour être apiculteur que ça ne l'a été autrefois en raison des nombreuses difficultés qui se présentent aux abeilles dont on vient de parler. Hein. Mais au point de vue sanitaire, je crois que depuis l'apparition des fameux symptômes de diminution du nombre des colonies d'abeilles, etc., les apiculteurs n'ont pas fondamentalement changé. Donc je pense que le problème ne vient pas en premier lieu des apiculteurs, même si certains en ont leur part. Le problème, on l'a évoqué, vient de plusieurs causes, mais au moins faut-il avoir le courage d'aller regarder dans chaque ruche qui a un problème, quelle est la cause immédiate. Si vous analysez des ruches mortes, vous allez forcément trouver des virus, il y en a partout. Voilà. Donc ce n'est pas forcément le virus la cause immédiate, c'est ce qui a pu précéder. Alors ce n'est pas forcément des pesticides, ça peut l'être, mais au moins il faut aller voir, il faut le reconnaître. La hiérarchie des facteurs, c'est important et ce n'est pas les quelques dosages de pathologie qu'on fait quand une ruche est morte qui peuvent parfois répondre à cette question.
Alors c'est un boulot de scientifique, mais ça peut être aussi un boulot de vétérinaire, c'est-à-dire médecin de ces animaux.
Alors en France, on a de la chance parce que les vétérinaires ont maintenant la possibilité d'avoir une formation à l'école vétérinaire de Nantes en particulier. Et donc, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont maintenant spécialisés dans les maladies et les problèmes, les intoxications des abeilles. Donc, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Donc ça, c'est une chance. Il ne faut pas hésiter à consulter des vétérinaires spécialisés dans les problèmes des abeilles.
Parce qu'ils poseront un vrai diagnostic.
Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce qui a été dit précédemment et au sujet de cette enquête, c'est qu'on ne regarde que les abeilles mortes. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'affaiblissement des colonies d'abeilles. Et ça, on sait depuis maintenant assez longtemps que les colonies d'abeilles sont moins peuplées qu'auparavant. Une colonie moins peuplée va récolter moins de miel. Donc, pour elle, ça peut être un problème, en particulier lors de l'hivernage, mais aussi pour l'apiculteur. En tout cas, s'il est professionnel, comme n'importe quel autre éleveur, de bovins ou d'autres, il a besoin d'une exploitation rentable qui rapporte du miel. D'autant que nos abeilles, ces abeilles, participent à la pollinisation des cultures et des fleurs sauvages. Donc si vous avez moins de récoltes de miel et moins d'apiculteurs ou moins de colonies d'abeilles, c'est la pollinisation directement des fleurs sauvages et des cultures qui peut être menacée. Donc je pense que c'est un problème très sérieux et qu'il faut vraiment regarder tous les facteurs et pas en oublier quelques-uns.
Comment voyez l'avenir, vous, en tant que scientifique? Parce que quand même, on voit bien qu'il y a quand même un faisceau plus que de présomptions maintenant sur ces fameux néonicotinoïdes, sur ces fameux pesticides. On voit ces colonies donc, qui s'écrasent de plus en plus. Le titre est net. En Europe, le déclin des abeilles frappe lourdement les pays du Nord. Qu'est-ce que l'on peut faire? On est sur une agriculture conventionnelle, certes, qui a nourri la France, on connaît donc tous les arguments positifs, etc., mais enfin, qui l'empoisonne aussi, qui empoisonne les abeilles. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Ça relève quand même du politique, à un moment ou à un autre.
Ah, c'est sûr que ce sont des décisions politiques courageuses qu'il faut prendre. Je ne vais pas intervenir du côté agronomique, mais je pense qu'il ne faut pas penser que c'est que les néonicotinoïdes. Je pense que c'est une erreur. Les cultures sont traitées de différentes façons. Il y a énormément de fongicides. Et en particulier, il y a surtout
des champignons, les fongicides.
Des champignons, des plantes. Et il y a énormément de mélanges de pesticides. Or, quand les pesticides sont homologués, quand ils sont testés, on les teste un par un. Oui. Donc, le problème actuel vient probablement des mélanges de pesticides.
Le cocktail.
Le cocktail de pesticides. Alors, ce n'est pas du coup seulement les néonicotinoïdes qui ont leur part, mais ça peut être d'autres pesticides et il faut améliorer les méthodes de test. Et ce qui est important, dans une décision récente de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, qui a fait une opinion scientifique sur la question en 2012 et un guidance document en 2013, c'est l'EFSA a donc montré que les méthodes actuelles d'évaluation des pesticides étaient mauvaises, n'étaient pas adaptées, en tout cas, aux abeilles. Et ça dure depuis comme ça un certain nombre d'années, pour des raisons obscures, ou pas si obscures. Non. Et en tout cas, maintenant, c'est clair. Ces méthodes ne sont pas adaptées. Donc on a actuellement sur le marché des molécules qui ont été mal évaluées quant à leur toxicité sur les abeilles. Et donc ce qu'il est urgent de faire maintenant, c'est de mettre au point des méthodes, de financer des méthodes qui vont permettre de mieux évaluer l'impact des pesticides sur les colonies d'abeilles dans la nature, en plein champ, etc., sur les vrais enjeux qui nous attendent maintenant.
Et nous rappelons simplement ce qu'est l'EFSA, puisque c'est au niveau européen que ça se passe. Ça.
Oui, c'est l'autorité sanitaire européenne.
Merci à vous Gérard Arnold, merci aussi d'ailleurs d'avoir répondu à Gilles Salva de l'ANSES. Décision politique courageuse, a-t-il dit, ça relève de l'oxymore ça ou pas? Je ne sais pas. Bon, nous allons maintenant ouvrir notre dossier sur le combat des terres agricoles face à l'urbanisation.
Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir
le voir moi.
J'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi.
J'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi.
J'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi.
J'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
De soir en soir.
De mon amour, Denis Chessou.
Oui, la vérité, tu ne la connais pas, c'est bien ce que... Parfois, voilà, c'est aussi un petit peu le problème, il se passe des choses comme ça, alors que ce soit en environnement, en économie, et puis on le découvre après. Alors, ce que je vous propose, on va partir sur le plateau de l'Essonne, on ouvre notre dossier, le combat des terres agricoles face à l'urbanisation.
Sur le plan agronomique, ce sont des terres fertiles de très très grande qualité, avec des rendements agricoles de premier plan. Ici, les agriculteurs font régulièrement autour de 100 quintaux hectares pour les céréales. Donc, c'est vraiment des terres très, très productives. 4 mètres de limon des plateaux. Donc, en même temps, une ressource en eau. Il faut bien voir que l'agriculture, les plantes, l'été, il faut qu'elles résistent à la sécheresse. Et donc, ici, il y a aussi une réserve d'eau. Ce qui fait que les agriculteurs du coin vous disent, en 76, lors de la grande sécheresse, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont fait des très bons rendements. Donc, ils ont très bien vendu, puisque partout à côté, il y avait eu des difficultés. Et donc, ce sont ces sols-là, 4 mètres de limon, qui sont menacés par tous ces projets d'aménagement.
L'homme que vous avez entendu s'appelle Cyril Girardin. Alors c'est le président des jardins de Cérès, divinité de la fertilité, très souvent associée aux moissons. Non, pas Cérès, dit Christophe Imbert. Ça, c'est après, c'est pour déloger les agriculteurs, c'est autre chose. Non, jardin de Cérès, c'est donc une AMAP. Nous sommes sur le plateau de Saclay, dans le département de l'Essonne. On est absolument à côté de Paris. On est à 20 km dans ces terres, on va dire, périurbaines. Et c'est bien pour ça que ça nous intéresse. On a compris qu'il y avait une qualité de sol assez extraordinaire, ce qui est le cas d'ailleurs dans pratiquement toute l'île de France. Donc Saclay, on connaît d'abord par le CEA. Et donc il y a plus que ce projet, c'est déjà le coup est parti avec ce qu'on appelle une OIN, une opération d'intérêt national, où en gros l'État, je ne vais pas dire fait ce qu'il veut, mais enfin on n'est pas loin. C'est-à-dire que la priorité est quand même là, et si on vous dit on veut urbaniser toute cette partie-là, et ben vous prenez vos pelles et vos pioches, et puis votre brouette, et puis vous allez ailleurs. Je résume un petit peu, mais c'est quand même un petit peu ça. Donc il va y avoir aussi, donc ça c'est un choix aussi, un choix politique, un immense campus scientifique. On va essayer de faire une espèce de Silicon Valley à la française pour faire schématique. Donc on déménage les grandes écoles de Paris, on les remonte sur le plateau, on va créer un pôle de compétitivité, un nid à matière grise. Pourquoi pas, hein ? Mais derrière, il y a aussi le discours sur les terres agricoles. Voilà, c'est-à-dire qu'on est un peu en contradiction avec ce qui se passe. Donc nous allons entendre dans ce reportage que j'ai tourné cette semaine, Cyril Girardin et puis aussi Christina et Emmanuel Vandamme. Alors tous les deux sont agriculteurs, on est à Villiers-le-Bac, là, dans l'Essonne, et ils ont créé, d'ailleurs il faut le dire aussi quand vous passez à côté, une belle odeur de pain parce qu'ils ont créé un fournil, pas pour gagner de l'argent, vraiment pas, mais parce que c'est la suite logique de leur travail. Il n'y a plus que 9 agriculteurs sur ce plateau. Et donc, Cyril Girardin va reprendre le micro pour nous raconter un peu l'étendue, pas forcément de tous les dégâts, mais quand même de certains, avec quelques chiffres afin de bien comprendre ce qui se passe. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ce problème-là, il ronge la France entière. C'est-à-dire que là, on a un cas d'école, mais bien évidemment, autour de chez vous, que vous soyez en région PACA, dans les Vosges ou que sais-je, vous avez aussi ce problème d'urbanisation galopante.
À l'heure actuelle, il nous reste 2800 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay. Et depuis environ 4 ans, on a bataillé pour conserver un maximum d'hectares agricoles. Le modus vivendi sur lequel on est arrivé, c'est 2300 hectares vraiment agricoles qui ont été sanctuarisés à travers la loi du Grand Paris. Ils sont sortis avec un décret le 31 décembre 2013 en disant oui, finalement, ce sont 2450 hectares qui sont conservés.
Attendez, 31 décembre ?
31 décembre 2013, vraiment à la limite. Ah puisque oui, la loi, je vous rappelle, était de juin 2010.
Ah voilà, c'est ça.
Voilà, juin 2010, donc 3 ans.
Allé au dernier moment.
3 ans pour délimiter l'ensemble des parcelles. Ouais. Donc ça a été vraiment du cousu humain pour délimiter toutes les parcelles qui resteront agricoles, naturelles ou forestières. Hein, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la zone protégée aujourd'hui, naturelle, agricole et forestière. Donc sur le plateau, si on s'en tient au plateau, parce que dans la loi du Grand Paris, il est bien inscrit les terrains agricoles du plateau, et ce sont 2355 hectares. Ce qui fait qu'il se laisse finalement pour les décennies à venir très peu de marge de manœuvre, très très peu. Vous imaginez qu'on ait besoin de faire bouger une route, d'agrandir une petite zone d'artisanat, etc. La marge est vraiment très faible. Oui. Voilà.
Et derrière tout ça, il y a aussi l'urbanisation, parce que ça va quand même de pair. Je veux dire qu'il va falloir loger ces ingénieurs, ces chercheurs un petit peu, et donc aussi des transports. Et on sent bien que les transports n'ont pas été quand même complètement peut-être bien pensés là.
Alors, au niveau des transports, on a un souci parce qu'en fait, depuis des décennies, il y avait un projet vraiment bâti pour la voiture de doublement d'une route départementale. Hein, donc, passer de 2 voies à 2 fois 2 voies, c'est-à-dire à 4 voies. Et puis aujourd'hui, alors même qu'il y a d'autres projets qui sont, en train d'être réalisés, notamment un transport en site propre, un bus en site propre, et puis ce métro léger également qui risque d'arriver, le doublement de la route reste d'actualité.
C'est là qu'on comprend
pour
pas.
Nous, il y a une forme d'incohérence, puisqu'on on se rend bien compte que toutes ces emprises des différents transports, c'est-à-dire bus, métro, route à 2 fois 2 voies, plus bien sûr des pistes cyclables, toutes ces emprises vont s'additionner. Et donc, on va être ici au milieu du plateau avec une barrière quasi infranchissable, et pour les randonneurs, et pour les cyclistes, et pour les engins agricoles. Voilà. Et nous, on s'oppose tout à fait à ce doublement du CD36, qui est un projet qui date des années 70-80, qui n'est plus en cohérence aujourd'hui avec ce qu'on veut faire pour les transports en commun. Et les transports en commun, c'est quand même nous, les contribuables, qui allons les payer à travers nos impôts. Et s'il y a ces ambitions de transport en commun, il ne faut pas laisser cette place à la voiture. Il faut avoir une cohérence quelque part. Et si on veut être pédagogique, il faut, reculer sur le transport par la voiture et mettre en avant le transport en commun et pas faire les deux. Et là, il y a une forte incohérence.
Ici, dans la ferme d'Emmanuel, de monsieur et madame Vandamme, là c'est formidable parce qu'on a cette odeur qui est absolument délicieuse, hein, qui est là, et je sais que c'est l'odeur du fournil. Voilà, parce qu'évidemment, on fait des céréales donc, ici. On les fait même d'ailleurs effectivement alors en bio. Alors racontez-nous, parce que comment on... À la fois, on n'arrête pas de nous dire bon, il faut faire attention aux terres agricoles. On sait qu'il y a l'équivalent d'un département qui part tous les 6-7 ans sous l'asphalte, etc. Et puis bah, là, on sent que vous résistez, quoi.
Oui, on résiste parce que c'est notre travail. Ouais. Mais ce n'est pas que de la résistance, c'est aussi passer des messages qu'on croit sur ce plateau de Saclay. On peut aussi créer des circuits courts, chose qu'on a montré avec mon mari, transformant la ferme en bio avec du blé qu'on fait pousser sur ce plateau, qu'on transforme sur place en farine dans notre ferme et qu'on transforme en pain. Mm-hmm. Un pain au levain qui est cuit au four à bois. Et donc, on a des clients qui ce sont des personnes qui vivent, qui travaillent par ici ou qui passent simplement pour aller travailler. Et avec notre pain, on sert aussi des collectivités.
Je me tourne vers vous, Emmanuel Vandamme, parce que là, on est au cœur de votre ferme, donc on est au cœur de ce plateau, de cette terre extrêmement fertile. J'irai le combat aujourd'hui. Comment on envisage effectivement l'avenir? Parce que vous passez en bio, je sais que c'était très dur, parce que l'année 2013 a été quand même bien pourrie pour tout le monde, donc ça n'a pas été très très simple.
Le combat, que ce soit en bio ou en conventionnel, pour moi, il est le même, quoi. D'abord, ne bétonnons pas la terre agricole, surtout de qualité, et ensuite, savoir comment on la cultive, si ça vient dans un deuxième plan. Nous, on a fait un choix qu'on paye cher. Mais bon, le combat aujourd'hui, c'est d'essayer de faire respecter la démocratie, je pense. Et aujourd'hui, elle est vraiment maltraitée sur le plateau de Saclay. Parce que quand l'État décide d'imposer une opération d'intérêt national qui est devenue aujourd'hui autre chose, enfin bref, je ne vois pas très bien où est la démocratie à cet endroit-là, parce que c'est une imposition, on est bien d'accord.
Ça franchit un peu des lois quand même.
Clairement. Ouais. Et donc, une fois qu'on a franchi cette première étape antidémocratique, ensuite...
C'est-à-dire que la conséquence, ça veut dire expropriation, par exemple. Ça
oui, c'est on a un voisin qui perd en propriété plus de 80 hectares, qu'on va lui indemniser peau de chagrin, quoi. C'est-à-dire qu'un hectare agricole, aujourd'hui, ça vaut... allez, on va dire ça vaut 7 000 ou 8 000 euros de l'hectare, d'accord ? C'est même pas ce qu'on va lui proposer. Derrière, on va urbaniser un hectare urbanisable sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros.
Ah oui.
D'accord ? Vous voyez un petit peu ? Donc moi, j'appelle ça de la spoliation de biens.
Premier point.
Ce premier point. Ensuite, nous sommes en France, le pays des droits de l'homme, etc. Donc on ne respecte pas la démocratie, on impose quelque chose. Et l'État, quand il impose quelque chose, il dit « Mais si on ne fait rien... » Vous allez continuer, les communes vont continuer à faire des zones pavillonnaires. C'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut arrêter cette construction de zones pavillonnaires qui, sur des hectares et des hectares, finalement, on implante peu de monde. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut qu'aussi il y ait une conscience collective en se disant « Mais si chacun veut habiter dans un pavillon avec un jardin, ben demain, tous les produits qu'on mange, ils arriveront plus de France, quoi, clairement. » Et puis, le deuxième point, on est à 20 km de Paris. Sur des terres exceptionnelles. Nous, les agriculteurs, on a fait des efforts colossaux depuis les 10 dernières années. Avant, on faisait que du blé, du colza, du maïs. Le citoyen lambda, il voyait rien de ce qui était cultivé là. Il le retrouvait dans son assiette, mais c'était passé par des...
agroalimentaires.
Oui, enfin voilà. Aujourd'hui, on nous a demandé, suite à l'audit patrimonial qui a été organisé par les agriculteurs, par mon père et un de ses voisins qui est décédé aujourd'hui, la demande, c'était, mais vous êtes là sur le plateau, mais est-ce que vous pouvez nous servir? Enfin, c'était, je résume, hein, l'audit. Est-ce que votre agriculture peut aussi nous servir à nous? Donc, dans plein de fermes, il y en a au moins 5 sur le plateau, on n'est pas beaucoup, on est 9. Hein. Il y en a au moins 5 sur le plateau qui se sont transformés. Pour dire, OK, on va servir les citoyens, on va arrêter de faire du blé, on va continuer de faire du blé.
On va se rapprocher de vous.
Mais on va se rapprocher de vous en faisant d'autres choses. En faisant ces autres choses... on a multiplié notre temps de travail par 2 et on n'a pas gagné 2 fois plus d'argent et surtout on n'en avait pas besoin. Moi je fais partie des agriculteurs céréaliers qui disent qu'en céréales depuis 2007 on gagne très bien notre vie. Alors je précise bien, en céréales et depuis 2007. À la limite les subventions qu'on touche on n'en aurait plus besoin, quoi. Donc du coup on a fait des efforts, on s'est impliqué dans la vie locale. En ayant fait tout ça, on se rend compte que de toutes les façons, l'État n'entend rien, l'État est autiste, l'État ne voit pas qu'il est en train d'urbaniser une partie précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Parce qu'elle est là et parce qu'elle est à 20 km. Et que demain, si on nous dit qu'un jour il y aura peut-être un petit peu moins de pétrole et qu'il faudra peut-être faire un petit peu attention à ce qu'on transporte dans les camions, En France, on est toujours avec cette idée, mais on en a plein. Oui, on en a plein, mais on en a plein à 200 km des grandes villes. Or, les gens sont dans les villes. Pierre Rabhi, il dit un truc qui est super. Un petit paquet d'immeubles, alors immeubles R plus 2, R plus 3, et autour 10 hectares de terres agricoles. Moi, la première fois qu'il m'a dit ça, c'était il y a longtemps, ça m'a fait sourire. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, on installe sur la région parisienne souvent des maraîchers sur des petites exploitations, un hectare, même pas, deux, en bio. Et eux, ils trouvent tout de suite à vendre leurs produits. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est bien en train de... Le circuit court, on est bien en train de le mettre en place. Et urbaniser ces terres, c'est une folie, quoi. Moi, je dis aux hommes politiques qu'on rencontre souvent, vous ne savez pas quel est le prix de cette terre. Parce qu'en fait, il faut mettre un chiffre. Et moi, je leur dis, mais vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Mmh. Vous ne le connaissez pas. Parce qu'à terme, on va le regretter. Et donc, c'est un suicide par avance pour nos enfants.
Belle parole, hein, donc d'Emmanuel Vandamme, que l'on va retrouver aussi avec son épouse Christina et Cyril Girardin dans quelques instants, parce que les idées fertiles n'ont pas terminé hein, sur France Inter, sur CO2 Mon Amour, comme ça de pousser. Puisqu'il parlait de Pierre Rabhi, je vais vous signaler que le 3 mai, on va faire une émission un peu spéciale avec Pierre Rabhi et Jean-Marie Pell pour un nouveau livre qui va sortir, qui est donc un croisement sur le sens des choses. Donc ce sera le 3 mai, et puis Jean-Marie, ce sera aussi la semaine prochaine. En attendant, voilà, musique.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans, couleur d'encre, je vois des poissons irradiés, je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées, que la nature assure, les animaux s'en sortent, que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons, qui nous juge, nous donne le frisson. Cassé de l'Est.
État des lieux choisi par Thierry Dupin, donc Lavillier, que vous avez bien sûr reconnu sur France Inter, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement avec ce dossier sur les terres agricoles et qui en fait bat son plein parce que ça ne fait pas l'ouverture du 20h, d'un 13h ou d'un 19h, non, c'est pas ça actuellement, mais quand même, actuellement vous avez une loi sur l'avenir agricole qui est entre les papates donc, des sénateurs, loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et donc d'un côté on vous dit mais mais il faut favoriser l'installation des jeunes. Bah oui, d'accord, mais ils n'ont pas de terre, ou bien à ce moment-là, elle coûte trop cher. Oui, parce que tout ceci fait monter les prix. Et donc, on souhaite en même temps aussi qu'une consolidation de ces fermes aussi existantes, et puis peut-être d'éviter des projets comme la ferme-usine des 1000 vaches. Vous voyez, on en a déjà parlé dans cette émission. Et bien, ça marche bien. Vous voyez, c'est un truc qui est un petit peu d'avenir. Donc, on va poursuivre ce voyage avec, toujours à Villiers-le-Bac, là, à Villiers-le-Bac, vous avez le Fournil, vous avez la ferme des Vendames qui est juste derrière. Et puis donc Cyril Girardin, je vous l'ai présenté comme étant président des Jardins de Cérès, donc c'est un MAP, mais il est aussi ingénieur de recherche à l'INRA et docteur en sciences du sol. Donc il connaît quand même bien ce sujet-là, il est assez engagé sur ce thème. Et tenez, un petit rappel historique aussi de ce qui s'est passé sur cette urbanisation et ces terres agricoles avec Cyril Girardin.
Les grandes métropoles d'aujourd'hui qui existent comme Paris se sont installées dans des bassins qui étaient extrêmement fertiles, hein, il y a de ça des centaines d'années, parce que les gens, évidemment, ils n'avaient pas ni les moyens de réfrigérer, ni les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, donc il fallait absolument qu'ils trouvent toute la ressource sur place. Et donc les villes comme Paris, mais c'est le cas d'autres grandes villes européennes, se sont installées dans des plaines extrêmement fertiles. Et puis, finalement, une ville comme Paris, petit à petit, elle a grignoté ses ceintures maraîchères. Hein, et ça s'est passé beaucoup... déjà au 18e, mais après au 19e siècle. Toutes les ceintures maraîchères qui entouraient la ville, qui nourrissaient la ville, ben comme on a développé le transport et le froid, et ben finalement, on a pu faire venir les produits depuis beaucoup plus loin. Et donc, la ville s'est étendue sur les ceintures maraîchères, les dévorant complètement. Et donc, finalement, la ville est arrivée. Après les ceintures maraîchères, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la grande culture, la céréaliculture. Et donc, la ville est arrivée aujourd'hui au contact de la céréaliculture. Et pour moi, je m'inscris dans une philosophie où on devrait vraiment s'interroger sur ce qu'on veut aujourd'hui comme agriculture périurbaine, parce que c'est une vraie question. On doit tout à fait, je dirais, penser et innover en matière d'interaction entre la ville et la campagne, parce que de toute façon, les pratiques de la grande céréaliculture ne peuvent pas exister, je dirais, en toute périphérie des villes, parce qu'on voit bien que quand on passe certains traitements avec des écoles primaires ou des crèches, voilà, ou des zones où il y a des enfants, etc., ben on peut pas passer des produits phytosanitaires comme on veut de grande culture à toute la proximité des villes. Et puis on voit bien aussi que par l'exploitation agricole, on pourrait recycler les déchets des urbains, on pourrait récupérer l'eau des surfaces imperméabilisées par les urbains. Donc il y a vraiment des interactions à trouver, à réfléchir. Et pour moi, je milite vraiment pour qu'on repense l'agriculture périurbaine. Voilà. Et les circuits courts participent de cela, de ce rapprochement entre les citadins et les agriculteurs.
Et aujourd'hui, Emmanuel Vandamme, en fait, on demande plein de choses à l'agriculteur. Parfois un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on lui demande bien sûr de nourrir les gens, première vocation. On lui demande de fabriquer de l'énergie. On lui demande d'être gardien d'une certaine biodiversité. Enfin, voilà, c'est le métier a beaucoup changé, quoi.
Oui, c'est. Je disais à Christiana au début d'année, janvier, février, j'ai passé 2 mois au bureau, ce que je faisais pas il y a 10 ans. J'ai passé 2 mois de mon temps à remplir de l'administratif parce qu'on nous en demande de plus en plus, parce que la réglementation devient de plus en plus compliquée. Alors sur
l'agriculture, il n'y a pas eu de choc de simplification chez vous ?
Non, il y a plutôt un choc de complication. Et sur l'énergie, par exemple, demander à l'agriculture de fabriquer de l'énergie. Alors ça, moi, c'est une chose qui m'a toujours fait hurler de rire. Je me rappelle, à l'époque, on n'était qu'en conventionnel, on travaille avec des voisins, on se prête du matériel et tout. La coopérative proposait des contrats pour un blé qui allait finir pour faire du diester, quoi.
On peut faire ce qu'on appelle les agrocarburants.
Oui, l'agrocarburant. Oui, c'est payé plus cher que le cours, non ? Puisque c'est du carburant. Donc le carburant, il y a une notion de plus-value. Il me dit non, on paye ça 10 euros moins cher à la tonne, mais on garantit le prix sur 5 ans. Alors à l'époque, on était à un prix vraiment plancher. Oui, je lui dis, écoutez, je pense pas que ça va se casser beaucoup plus la figure que ça. Donc je ne prends pas. Et puis je comprends pas le concept surtout. Ouais. Ils en ont tous pris. Tous autour.
En ce qui concerne la méthanisation ou bien les digesteurs ?
Ben voilà, la méthanisation, c'est l'air du temps aujourd'hui. Et dans un méthaniseur, il faut mettre du maïs. Il faut mettre énormément de maïs. Et donc, on va faire pousser du maïs et on va mettre directement le maïs dans le digesteur plutôt que de le donner aux animaux. Il faudra aussi prendre le fumier, le lisier de ces animaux pour mettre dans le méthaniseur, mais il faut aussi de la paille, il faut aussi du maïs. Moi, je trouve qu'on tourne en rond. Enfin,
Je trouve qu'on n'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Alors certes, c'est de l'énergie, entre guillemets, ils disent que c'est de l'énergie verte.
Verte,
c'est
oui.
Pas vrai. Le maïs, quand on voit les doses d'engrais, les doses d'herbicides qu'on met sur un maïs, c'est pas vert du tout, quoi. La plante, oui, elle est verte, mais l'agriculture en elle-même, elle l'est pas, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'on se concentre pas sur des choses... Enfin, je connais rien dans les éoliennes, je connais rien dans les panneaux photovoltaïques, mais on voit bien que ça évolue, on voit bien que les panneaux photovoltaïques aujourd'hui ont une évolution. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'argent là-dedans plutôt que d'aller essayer de tout faire faire à l'agriculture qui a déjà du mal et qui va avoir du mal juste à nourrir la planète entière? Il y a une chose quand même, quand ils ont démarré l'OIN, c'était 2005, les premières réunions publiques qu'on a eues, ils disent de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, rien ne sera fait tant que le service de transport public ne soit pas mis en adéquation. Oui. Aujourd'hui, les écoles sont en train d'être construites. Tout est fait, sauf les transports en commun.
On appelle la charrue avant les bœufs.
Voilà, exactement. Mais c'est alors on, quand même,
très français.
Je sais pas si c'est français, c'est, mais c'est, on est quand même.
Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples.
Voilà, on est quand même, c'est quand même aberrant. Hein. Ce sont les gens qui nous dirigent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils aillent très vite. Donc, je vous citais juste le transport en commun en site propre, ouais, qui fait Massy-Saclay. Ce truc-là, c'est une priorité parce que c'est plus facile de le faire que de faire le métro pour le moment. Voilà. Et donc, ils sont en train d'aller très très vite. Ils ne peuvent pas négocier les expropriations, donc ils doivent passer en frange du golfe. Le golfe, il est propriétaire de son terrain. Il dit, mais moi, si vous passez là...
C'est le golfe de Saint-Aubin.
Le golfe de Saint-Aubin. Il dit, je vais perdre deux trous. Mais il a raison, il joue sa carte à lui. Oui. Donc, qu'est-ce que fait la CAPS, Communauté d'agglomération du Plateau Saclay? Il dit, vous inquiétez pas, vous avez besoin de combien? J'ai besoin d'un hectare et demi. On va vous les redonner à côté. Et le PPS a sorti cet hectare et demi, l'établissement public Paris-Saclay, voilà, qu'ils ont sorti un hectare et demi à côté du golfe, qui n'est pas dans la zone de protection, pour pouvoir leur donner au golfe. Sauf que nous, on est locataires. Mais pour le moment, on n'est pas autour de la table. Et moi, je les attends. Et je leur ai déjà dit, vous mettez un piquet dans ce champ-là, on va tout de suite au tribunal. C'est juste scandaleux. Vous allez au plus court parce que vous n'avez pas raisonné votre chose.
Là, le plateau qu'on veut coloniser, aménager, construire, c'est un plateau où on retrouve des fermes gallo-romaines. Il a été dédié à l'agriculture depuis des siècles. Et donc, c'est vraiment une forme d'ineptie de vouloir coloniser ce plateau avec ces terres fertiles très productives, alors que tout l'habitat et tous les transports ont été tournés dans les vallées depuis des années. L'avenir qu'on prépare aux gens qui vont habiter le plateau, dans les nouveaux campus, etc., qui vont se créer, si le transport n'arrive pas, ça va être vraiment calamiteux. Et sur le plan de la circulation automobile, ça va être problématique.
Alors Emmanuel, qu'est-ce qui vous plaît quand même? Qu'est-ce qui vous motive toujours dans ce métier que vous faites quand même avec...
Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'essayer de changer le type d'agriculture qu'on faisait, c'est-à-dire de passer du conventionnel au bio, même si on ramasse des bouillons énormes qu'on n'a jamais ramassés en conventionnel. Ce qui me plaît, c'est d'essayer de voir que c'est possible, mais qu'il faut une technique, que cette technique, moi je ne l'ai pas acquise à l'école, ça fait bien longtemps que je suis sorti de l'école, mais on n'enseignait pas du tout le bio à l'école, et que la technique, il faut l'acquérir en travaillant, il faut l'acquérir en allant voir ceux qui le font depuis 15 ans, 20 ans, et de la mettre en place chez soi. Ça, c'est un nouveau challenge qui est finalement plus intéressant que ce que je faisais jusque-là, d'étaler des pesticides et puis de récolter, et puis globalement, c'est toujours la même chose. En bio, c'est jamais la même chose, ça change tout le temps. Par contre, en bio, vous mettez vraiment votre portefeuille sur la table et à l'envers. C'est-à-dire que vous pouvez tout perdre. Et nous, on a vraiment tout perdu la première année. Du coup, une marche arrière. Cette année, on est reparti un peu en conventionnel. Bon, maintenant, les règles changent aussi. Parce que ça, c'est vraiment vive la France. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire les deux sur la même ferme. Maintenant, on n'a plus le droit de faire du bio et du pas bio sur la même structure. Mais ça change constamment. Ouais. Donc, on va repasser, je pense, tout en bio. On est en train de tout faire pour aller dans ce sens-là. C'est ça qui me plaît. Sinon... Être agriculteur ici sur le plateau de Saclay, franchement, faut s'accrocher.
Alors, il ne faut pas oublier que quand même sur ce territoire a été créée une zone protégée, naturelle, agricole et forestière. Donc, il y a de très beaux enjeux sur cette zone. On voit bien qu'il y a il y a des gens qui sont très investis pour l'agriculture, donc il y a très beaux enjeux de développer cette zone dans un sens d'une agriculture périphérique à une ville, et notamment la loi du Grand Paris demande qu'il y ait un programme d'action spécifique pour l'agriculture du plateau de Saclay, et moi je crois qu'avec les 1300 chercheurs de l'INRA et d'AgroParisTech qui vont arriver sur le plateau, on peut avoir toutes les ambitions pour une agriculture innovante pour le 21e siècle.
Qui retrouve le lien avec le sol.
Le lien avec le sol, et puis qui recrée les liens. Et c'est, je crois que c'est une des plus belles réussites sur ce territoire, de redonner du lien entre les citadins et les agriculteurs.
Et moi, ce qui me plaît quand je vais dans les champs et je vois la générosité de cette nature qui, une année après l'autre, elle donne toujours les... La plante avec sa force, et il y a la maladie, il faut voir quoi faire. C'est sans trahison, voilà. C'est comme cette nature, elle est sans trahison. Si on arrive à l'observer, à la connaître davantage, à la respecter, à la laisser faire, elle fait un travail magnifique, souvent à notre place, beaucoup mieux que nous. Et c'est ça qui me plaît.
Merci à Christina Emmanuel Vanda, mais aussi donc à Cyril Girardin. On entendait des trucs qui volent. Ben c'est normal, parce que vous avez l'aéroport de Toussus-le-Noble qui est à côté. Donc il y avait ça, puis des oiseaux. Ça vole aussi, c'est pas inintéressant non plus. C'est aussi un combat que mène, je tiens à le dire, Île-de-France Environnement, donc qui regroupe bon nombre d'associations donc en Île-de-France, avec Michel Riotto à sa tête. Et donc tout ce travail, évidemment, sensible. Mais ça nous concerne tous. Hein. Vraiment, ça nous concerne tous, tous citoyens que l'on est. Et ces gens-là aussi donc ont signé, c'est très intéressant, une l'Union Fertile. L'Union Fertile, c'est un appel pour la préservation des terres agricoles en France. Donc beaucoup de gens, hein, de politique, droite, gauche, des associatifs, etc., que ce soit Hulot, Marc Dufumier, etc. Bon, on retrouve beaucoup, beaucoup de monde. Et vous avez donc ce site sur le site de CO de mon amour via franceinter.fr. Et aussi pour vous exprimer, 01 56 40 40 35. Tenez, petit appel, on va s'intéresser au bouquetin, oui, en savoir.
Bonjour Denis, je suis Marc Michelot, l'animateur de l'association Arten qui s'intéresse aux grands herbivores et particulièrement aux tarpans. Mais c'est d'une autre espèce emblématique dont je vais vous parler maintenant, c'est le bouquetin des Alpes. Chacun connaît cet animal très sympathique qui anime les randonnées en montagne, en l'été notamment. Eh bien cet animal très tranquille fait l'objet d'une campagne d'abattage actuellement qui est passée pratiquement inaperçue au niveau national en tout cas. Depuis octobre dernier, près de 240 bouquetins ont été abattus sur ordre du préfet de Haute-Savoie dans le massif du Bargy, parce que cette population est avérée infectée par la brucellose. Et en contradiction avec tous les avis, enfin la plupart des avis des experts et des commissions habilitées, comme le CNPN, qui signale que la transmission au bétail domestique à l'homme est extrêmement rare et complexe, eh bien le préfet a donné l'ordre d'abattre tous les animaux de plus de 5 ans qui s'avèrent être les plus touchés. Alors actuellement, il y a un collectif d'associations qui vient de se monter, qui proteste contre cette pratique et qui demande que le reste de la population soit épargné, en tout cas que seuls les animaux considérés comme étant vraiment malades soient abattus, parce qu'il y a actuellement des risques, des fortes pressions de la part de syndicats agricoles relayés par les élus locaux pour en finir avec les bouquetins du Bargy. Donc je vous invite j'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à consulter le site sauvonslesbouquetins.com et de signer la pétition qui a déjà recueilli 25 000 signatures et à en savoir plus sur cette affaire. Et puis pour ceux qui le peuvent, à participer au rassemblement qui aura lieu ce lundi 14 avril à partir de 16h devant la préfecture de Haute-Savoie à Annecy.
Sauvonslesbouquetins.com, qui eux-mêmes d'ailleurs doivent sauver les terres agricoles. Enfin, j'imagine qu'ils doivent être solidaires de cette affaire-là. Merci à Sophie Bria, notre assistante, Christophe Imbert qui réalisait l'émission, Albert Houck, Denis Chessou. Je vous retrouve avec plaisir. Donc, la semaine prochaine, il y aura Jean-Marie Pelt, un reportage, je ne sais pas encore lequel, d'une actualité. L'Atelier du Mont-Petit-Loup, demain 19h55. Vivre avec les bêtes, ce sera demain, dimanche à 15h, à Alain Bougrain du Bourg. Et puis, dans quelques instants, la librairie francophone d'Emmanuel Kérad. Je vous souhaite un excellent week-end.